Eh bien, ce matin, nous poursuivons notre série « Le temps de briller ». Et pour moi, c'est un sujet qui m'interpelle tout particulièrement, car je crois fortement qu'un chrétien, une église ou même une communauté qui ne brille pas est tout simplement sans vie, sans saveur et sans impact. Et ce matin, que vous soyez ici en présentiel ou que vous nous suivez en ligne, je peux croire que le désir de chacun de nous est de briller pour Christ. Amen. Briller en tant qu'individu et briller en tant que membre du corps de Christ qui est l'Église. Il est dit de Christ qu'il est la lumière du monde, le seul qui fait passer des hommes et des femmes des ténèbres à la lumière en leur offrant une vie nouvelle. Et dans cette vie nouvelle, il les appelle à être à leur tour aussi sel et lumière de la terre. Amen. En d'autres termes, Christ nous appelle à être ses ambassadeurs ici-bas, à être des hommes et des femmes qui brillent. Des hommes et des femmes qui brillent parce que nous avons reçu de sa part cet ordre de mission et parce que nous sommes éclairés nous-mêmes par sa lumière. Lui est la source de cette lumière qui est intarissable. Est-ce que vous croyez à cela ce matin? Que nous sommes des ambassadeurs de Christ, appelés à briller dans l'Église, à briller aussi à l'extérieur de l'Église. Le titre de mon message ce matin est « Le temps de briller avec une foi vibrante ». Amen. Avant d'aller plus loin dans ce message, j'aimerais revenir sur une phrase de pasteur Jean-Fred qui m'a beaucoup touché la dernière fois lors de son premier message. Je paraphrase cela comme ceci. Un phare est appelé à briller et s'il ne le fait pas, il n'est plus un phare, mais une tour, tout simplement. Un poteau sans lumière. Amen. Il faisait référence à une parole prophétique qui a été donnée à notre Église, l'exhortant à être un phare. Depuis la pandémie du COVID-19, tout le monde s'accorde à dire que l'Église n'est pas un bâtiment, mais c'est l'ensemble des hommes et des femmes, des enfants qui la constituent. Donc si c'est nous l'Église, alors ce n'est pas au bâtiment d'être un phare qui brille, mais c'est chacun de nous qui sommes appelés à être un phare qui brille avec éclat pour la gloire de celui qui nous a appelés à son admirable lumière. Amen. Et en préparant ce message, c'était vraiment fort sur mon cœur d'aller comprendre un peu plus ce qu'est réellement un phare, son rôle, sa source d'alimentation de lumière et les conséquences de son absence. Je vous propose une image d'un phare. C'est beau, hein? Merveilleux. Je vous partage rapidement quelques résultats de mes recherches. Par définition, un phare est une tour élevée portant un puissant foyer de lumière pour guider les navires pendant la nuit et placée sous la surveillance d'un personnel de garde. Et si l'on s'en tient à sa définition exacte, un phare est une structure emblématique qui guide les navires en lui fournissant un balisage lumineux essentiel. Il émet des faisceaux de lumière puissants pour avertir les marins des dangers côtiers et les guider en toute sécurité à bon port. L'éclairage d'un phare repose sur des sources lumineuses spéciales. Et traditionnellement, les phares utilisaient des lampes à incandescence alimentées par des combustibles tels que le pétrole ou le gaz. Et c'est pour cette raison qu'ils sont toujours placés sous la surveillance d'un garde qui veille, sous la surveillance d'un personnel de garde, qui veille à ce qu'il ne manque jamais de combustible. Le phare doit toujours briller. Une dernière chose que j'ai trouvée sur les phares et qui m'a beaucoup fasciné, est que bien qu'ils soient plantés à un endroit précis et immobile, ils utilisent des mécanismes de rotation, de clignotement, leur permettant d'assurer un balisage lumineux distinctif. Waouh ! Bien que le phare soit planté à un endroit précis, fixe, qu'il soit immobile, il est soutenu par un mécanisme de rotation qui permet à la lumière de tourner tout autour et d'envoyer des faisceaux plus loin. Est-ce que vous y voyez un parallèle avec la foi chrétienne, avec la mission de l'Église? Oui? Yes. Non seulement un phare éclaire l'endroit où il est placé, mais aussi tout autour et même au loin, avec des faisceaux lumineux bien, bien, bien distinctifs. Chers amis, c'est à cela que nous sommes appelés. Nous avons été édifiés comme un phare de Dieu afin de briller avec une foi vibrante entre nous dans l'Église, à l'extérieur des murs de l'Église, dans nos maisons, sur nos lieux de travail, dans notre ville et dans notre pays, avec une lumière bien distinctive. Amen. Est-ce que vous voulez briller ainsi? Vous avez besoin d'une foi vibrante. Et Dieu nous le donne. Il nous donne cette foi vibrante qui nous permet de briller pour sa gloire. Faisant aussi office de personnel de garde du phare, nous avons la responsabilité de veiller à ce que la lumière du phare ne s'éteigne point en l'approvisionnant continuellement de combustible. Amen. Et pour notre foi, ce combustible indispensable n'est nul autre que le Saint-Esprit. Nous avons besoin d'entretenir notre phare avec le Saint-Esprit, avec l'huile du Saint-Esprit. Tournez avec moi ce matin votre Bible dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25, versets 1 à 13. C'est une des paroles de sagesse de Jésus lui-même, intitulée « La parabole des 10 vierges ». On va le lire ensemble ce matin. Matthieu 25, versets 1 à 13. « Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe. Tandis que les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. » Verset 5. « Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici le marié, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Verset 10, « Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Amen. Un magnifique texte rempli de sagesse, rempli d'enseignement. Malheureusement, il a été trop souvent utilisé pour faire peur aux chrétiens. Peur aux chrétiens face au retour de Jésus. Et c'est la toute première fois que je la prêche et je m'étais toujours promis que le jour où j'aurai l'occasion et le courage de prêcher ce passage, je m'appliquerai à bannir la peur dans cette prédication. Je m'appliquerai à faire émerger l'espérance et la joie qu'il y a dans l'attente de notre Seigneur, surtout lorsque nous savons ce qu'il faut faire dans l'attente de son retour. Amen. Donc soyez sans crainte ce matin, il n'y aura pas de peur, il y aura la joie, il y aura l'espérance. Amen. L'intention de Dieu en inspirant la rédaction de la Bible par ses auteurs n'était pas pour nous faire peur, mais plutôt de communiquer la vie à tous les humains, d'avertir les croyants et les encourager à s'affermir davantage dans leur foi et à briller avec toute la force qu'ils ont. Amen. Et dans ce passage, le royaume des cieux est comparé à 10 jeunes filles qui, le soir des noces, attendent l'époux munis de leurs lampes. Cinq d'entre elles, qui étaient folles, n'ont point pris d'huile avec elles. Les cinq sages en ont pris dans des vases. En attendant l'époux, elles s'endorment toutes. Et au milieu de la nuit, elles entendent crier. « Voici l'époux !» Alors, elles s'éveillent et préparent leurs lampes. Pour bien comprendre ce passage, il faut savoir qu'il fait allusion à un usage bien connu en Orient, en Israël. Le mariage se déroulait en deux étapes. Les fiançailles d'abord, puis les noces après. Après les fiançailles, le fiancé s'en allait seul sans sa fiancée afin d'aller préparer la maison de rêve dans laquelle ils allaient passer le restant de leur vie en amoureux. Ouais, c'était la Saint-Valentin, hein? Et une fois l'aménagement de la maison terminé, les noces se célèbrent de nuit. L'époux se rend le soir chez sa fiancée afin de l'épouser et de l'amener dans sa maison. Une grande cérémonie de mariage est alors organisée, suivie d'un banquet chez l'époux. Et pour ceux qui ne le savent pas, l'Église que nous formons est la fiancée de Christ qui est partie pour préparer une demeure dans le ciel pour nous. Et nous sommes dans l'attente de son prochain retour pour qu'il vienne nous prendre avec lui et que nous puissions vivre avec lui en amoureux. D'ici là, pour être capable de briller avec une foi vibrante, j'aimerais attirer notre attention sur deux choses tirées de cette parabole. La première chose, c'est l'attitude des 10 jeunes filles dans l'attente de l'époux. Et la deuxième chose, c'est les conséquences qui découlent de cette attitude. Nous allons regarder à la première chose ce matin. L'assoupissement dans l'attente du marié. Matthieu 25, versets 5 à 6. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici le marié, allez à sa rencontre !» Le texte est très clair et parle de lui-même. Au lendemain des fiançailles, je peux très bien imaginer les 10 jeunes filles dans leurs plus belles robes, bien coiffées, bien parfumées, attendant le marié devant le portail de la maison familiale et se disant, « Dès que je vais le voir venir de loin, je vais courir à sa rencontre et me jeter dans ses bras pour qu'il me serre fort contre lui. » C'est le rêve de toute jeune fille, hein? Et c'est le rêve de tout jeune garçon de serrer sa fiancée fort contre lui. Ah oui, il y a un amoureux dans la salle. Et peut-être pendant la cérémonie des fiançailles, le marié leur a partagé quelques confidences, telles que ses repas préférés, ce qu'il aime faire, ce qu'il déteste dans la vie en général. Et alors, dans ce temps d'attente, c'est l'occasion pour ces jeunes filles de perfectionner leur talent de cuisinière et de profiter à apprendre un peu plus sur les choses qui font la joie du mari. J'ai été inspiré par la Saint-Valentin, hein, un peu influencé. Le texte ne le dit pas, mais avouez que c'est facile à imaginer. En plus, c'est le début de l'amour entre eux. Tout le monde ici sait que le début de toute vraie histoire d'amour commence toujours en feu. Le cœur qui bat la chamade. Certains d'entre vous, vous repensez à vos débuts avec votre époux, avec votre épouse. L'être aimé est constamment dans tes pensées. Et tu ne fais rien sans tenir compte de lui ou d'elle. Et plus le temps passe, plus il est laborieux de garder la flamme vive. Plus le temps passe, c'est laborieux de garder cette flamme vive si l'on n'est pas intentionnel. Dieu merci, les épouses ont une bonne mémoire et sont très efficaces pour rappeler au mari le passage de Éphésiens 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elles. Et tous les hommes ici disent « Ah !» Je pense que c'est le verset préféré de beaucoup de femmes. Et plus sérieusement ce matin, on voit dans cette parabole que plus le temps passe, plus l'attente est difficile. Le risque de perdre la flamme, le risque de s'assoupir et de s'endormir est bien réel, bien réel. En plus, dans l'attente, le cri qui se fait entendre disant « Voici le marié, allez à sa rencontre !» a retenti au milieu de la nuit, c'est-à-dire à l'heure la plus inattendue, à l'improviste. Le risque de perdre l'enthousiasme guette chacun de nous dans l'attente du retour de notre Sauveur Jésus-Christ. Si vous remarquez bien dans le passage, il n'est pas dit que seules les jeunes filles folles, sans huile de réserve, dans leur vase, se sont assoupies. Non. Même les jeunes filles sages qui avaient pris soin de prévoir de l'huile en réserve se sont aussi assoupies, tout comme les jeunes filles folles. Comme quoi, nul n'est à l'abri d'un assoupissement spirituel. Aussi grand qu'on soit, personne n'est à l'abri de l'assoupissement spirituel. Chers amis, la vie est faite de saisons et toutes les saisons ne se ressemblent pas. Il y a parfois des saisons durant lesquelles on est tout feu, tout flamme. On brûle pour Dieu. Et d'autres fois, on manque d'énergie pour toutes sortes de raisons. Un petit relâchement dans notre foi et l'assoupissement nous atteint. Il n'y a pas de culpabilité là-dedans, mais juste un avertissement. Proverbe 24, verset 33 à 34 nous dit « Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. » Un peu d'assoupissement, un peu croiser les bras et la pauvreté spirituelle peut nous surprendre comme un rôdeur. Laissez-moi vous partager une petite tranche de vie ce matin. Il y a quelques années de cela, mon épouse et moi avons été frappés par un événement terrible qui nous a fait basculer inévitablement dans une saison assez difficile. Juste avant cet événement, nous étions très investis dans notre foi, dans la vie de l'Église. Nous servions avec joie, avec bonheur, avec zèle, avec passion dans notre communauté et même dans la vie dans laquelle nous étions. Dans mon Église, j'étais un des responsables de l'éducation chrétienne des ados et leader d'un petit groupe de maison. Et même à l'université, sur le campus, j'étais le porte-parole des étudiants internationaux à l'époque. Et j'avais même un salaire de l'université pour ça, qui m'a beaucoup aidé en temps. Je peux vous dire qu'à cette époque précise, ma foi brillait de façon vibrante. Elle brillait, ma foi. Mais au lendemain de cet événement tragique, ma foi a pris un coup dur. Je n'avais pas renié Dieu, mais j'étais dans l'incompréhension totale. Et cette incompréhension m'a amené tranquillement à prendre du recul face à mes engagements, face à mon implication dans l'Église. Appelé à être un phare qui brille dans l'Église, dans ma communauté, dans ma famille, je me suis vu éteint tout simplement. J'étais là comme un poteau. Je ne brillais plus. Je pouvais faire semblant de briller, mais au fond de moi, je savais que la lumière était éteinte. L'interrupteur était off. J'avais décidé dans mon fort intérieur de continuer à croire en Dieu, mais tout en renonçant à m'impliquer dans la vie des autres, à m'impliquant dans la vie de l'Église. Et ça a fonctionné pendant un temps, car Dieu voulait à travers cette saison de désert m'attirer à lui et me révéler davantage son cœur. Et pour toutes sortes de circonstances, je suis arrivé à l'évidence de me poser la question du pourquoi je sers exactement Dieu. Pourquoi je le sers? Est-ce que je sers Dieu pour qu'il me garde de tout mal? Est-ce que je sers Dieu pour qu'il me bénisse en tout temps? Qu'il me fasse marcher toujours dans de verts pâturages? Est-ce que c'est juste la raison pour laquelle je sers Dieu? Ou il y a d'autres raisons, plus que ça. Toutes ces questions étaient vraiment légitimes. Et peut-être qu'il y a certains d'entre vous ce matin, vous vous posez la même question. Je peux vous dire que c'est des questions qui sont légitimes. Mais au-delà de tout cela, j'ai compris que la plus grande garantie que Dieu puisse me donner, c'est d'être toujours présent avec moi, peu importe la saison dans laquelle je me trouve. Qu'elle soit une saison joyeuse ou difficile, sa garantie, sa promesse, c'est d'être avec moi. C'est de me prendre par la main, c'est de me soutenir. Et même lorsque je vais tomber, il va être toujours prêt pour me relever. Et parfois, se relever, c'est difficile, mais il le fait toujours. J'en suis un témoin. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes passés par ces temps aussi. Et Dieu vous a relevé. Et ceux qui ne sont pas encore relevés, Dieu va vous relever. Amen. Briller avec une foi vivante ne veut pas dire que les épreuves ne nous atteindront pas. Mais il veut dire que même dans les épreuves, dans les attentes, nous continuerons de briller par notre amour pour Dieu, par notre service et par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Nous pouvons dans ces moments de désert demander à Dieu d'augmenter notre foi, non pas pour déplacer des montagnes, mais pour nous rendre capables de toujours l'aimer, de briller, même si cela nous semble humainement impossible. Parfois, on a besoin de foi pour faire déplacer des montagnes, pour avoir un miracle. Mais parfois, on a juste besoin que Dieu augmente notre foi pour tenir ferme, pour continuer à briller pour lui, même dans l'incompréhension. Le croyant qui a mis sa foi en Dieu est capable, par sa grâce, de continuer à briller avec une foi authentique et vibrante, même après la perte d'un être cher. Amen. Même après la perte d'un emploi, même dans l'attente d'une réponse qui tarde, ou même après une tempête dans un mariage, un chrétien est capable de briller encore. Il est capable de briller encore si sa lampe n'est pas vide. Amen. Nous avons un Dieu fidèle, un Dieu qui pourvoit à nos besoins, un Dieu qui guérit, un Dieu qui restaure. Et nous ne le limitons pas, car il est le seul Dieu qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Moi, longtemps, j'ai eu de la misère avec ce verset. Les chrétiens sont tellement bons pour nous citer ce verset lorsque nous passons par des temps difficiles. Et moi, je ne comprenais pas ce passage-là. Comment Dieu peut faire concourir quelque chose qui me fait mal à mon bien? Je ne veux pas. Fais-moi passer par un autre chemin. Mais Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Et nous sommes des gens qui l'aiment ce matin. Et notre désir, c'est de l'aimer encore plus, jour après jour, saison après saison. Deuxième point ce matin, des lampes qui s'éteignent dans l'attente. Matthieu 25, versets 8 à 9. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-même. » Le réveil des 10 jeunes filles au retour de l'époux a été soudain et brutal. Mais il montre que certaines étaient mieux préparées que d'autres. La faible quantité d'huile renfermée dans les lampes de celles qui n'étaient pas bien préparées s'étant consumée pendant l'attente, ces lampes ont commencé à s'éteindre, les poussant ainsi dans une angoisse, dans une panique. Elles vont dire, « Hé, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Au secours, à l'aide, s'il vous plaît. Nos lampes s'éteignent. » Ici, il faut noter que le refus des jeunes filles sages de donner aux folles de leur huile n'est pas de la méchanceté. Mais cela nous rappelle tout simplement que personne ne saurait offrir à une autre personne les grâces de la foi, ni son expérience personnelle d'une vie de sainteté et d'amour. Les grâces de la foi doivent être acquises par chacun pour son propre compte. Les grâces de la foi doivent être acquises par chacun pour son propre compte. Dieu seul en est la source et ce n'est qu'en nous approchant individuellement de lui que nous pouvons les acquérir. Ces grâces de la foi, nous ne pouvons les acquérir que lorsque nous nous approchons individuellement de Dieu. Les gens peuvent nous aider, ils peuvent nous prendre par la main pour nous approcher de Dieu, mais nous devons accepter individuellement de faire par nous-mêmes le premier pas, d'aller vers lui. Et c'est là le début d'une aventure extraordinaire de foi. Lorsqu'on fait le premier pas, un deuxième, un troisième, un quatrième pas, on rentre dans une aventure extraordinaire qui fait de notre foi une foi vibrante et authentique. Amen. Un pas à la fois, un jour à la fois, et à chaque jour, la grâce de Dieu est suffisante. Dans cette aventure-là, on fait un pas à la fois, un jour à la fois, et à chaque jour, à chaque jour, à chaque jour, la grâce de Dieu est suffisante pour chacun de nous. Au risque de voir la foi vibrante du jeune Timothée s'éteindre face aux épreuves de la vie, face aux défis de la responsabilité qu'il avait d'être un jeune pasteur dans une église, Paul va lui rappeler ceci dans 2 Timothée 2, versets 6 à 7. C'est pourquoi, Timothée, je te le rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé ma main sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Quelqu'un doit entendre ce passage ce matin. Ce n'est pas un esprit de timidité ni de peur que Dieu t'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse pour que tu brilles. Cette parole est pour nous aussi aujourd'hui, car Dieu, en se faisant connaître à nous, il a posé ses mains sur nous. Et nous a donné son Saint-Esprit, qui n'est pas un esprit de timidité ni de peur, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse, de libéralité, de générosité et de joie. Amen. Dieu est bon. Il est fidèle. Il est merveilleux. Il est bon envers ses enfants. Bien-aimés, cette parole est pour nous. Cette parole, nous devons nous l'approprier si nous voulons vivre une foi vibrante. Romains 8, verset 19 dit que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le monde qui nous entoure attend la révélation du Fils de Dieu au travers de nos vies, au travers de notre témoignage. Soyons-en sûrs et certains, notre entourage, notre ville, notre pays attend qu'on puisse briller davantage dans la manifestation de l'amour de Dieu à leur égard, en leur annonçant l'Évangile, la bonne nouvelle qui sauve et qui rend les captifs libres de toute chaîne et de tout lien. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Le monde n'est pas capable de libérer des gens de leur captivité. Mais nous, nous avons été investis par le Saint-Esprit pour rendre des captifs libres de toute chaîne, pour guérir les malades, pour encourager, pour exhorter, pour bénir notre communauté avec beaucoup de générosité, avec beaucoup d'amour et d'authenticité. Nous ne le faisons pas pour bien paraître, mais nous le faisons parce que c'est cela qui nous anime à l'intérieur de nous. C'est notre nature de bénir. Et pour que cela soit possible, nous devons rester vigilants dans toutes les formes d'attente auxquelles nous faisons face, et tout particulièrement celle du retour de Jésus-Christ, l'époux qui viendra chercher son Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Une église qui brille dans son temps, qui brille dans la saison dans laquelle Dieu la place, dans la ville dans laquelle Dieu la place, dans sa communauté. Une église qui est appelée à briller. Et comme je l'ai dit auparavant, l'église, ce n'est pas le bâtiment, c'est chacun de vous, chacun de nous qui la constituons. Et c'est nous qui brillons. C'est nous qui brillons pour la gloire de Dieu. Cela m'amène à mon troisième et dernier point ce matin. Vigilance dans l'attente. Matthieu 25, verset 13. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Partout dans la Bible, il est frappant de voir la récurrence du nombre de fois que Dieu nous exhorte à être vigilants, sobres, car Satan, l'ennemi de nos âmes, est rusé et il rôde cherchant qui il va pouvoir ébranler, à qui il va pouvoir voler la joie en l'amenant à douter de Dieu, à douter de l'amour que Dieu a pour lui, et plus encore, à l'empêcher de briller comme un phare avec une lumière rotative qui est bien distinctive dans la saison dans laquelle la personne se trouve. Il se plaît à le faire, à nous voler notre joie, à nous empêcher de briller, à nous empêcher de nous épanouir dans la foi que Dieu nous a donnée. Une lumière qui donne l'espoir dans la tempête, avertie dans les dangers et qui éclaire tous les endroits sombres qui sont dans son champ d'action. Ça, c'est le rôle du phare. Le rôle du phare, c'est d'être une lumière qui donne l'espoir aux marins lorsqu'il y a une tempête. Une lumière qui éclaire tous les endroits sombres qui sont dans son champ d'action. Et c'est à cela que nous aussi, en tant qu'Église, nous sommes appelés. Nous sommes appelés à donner de l'espoir. Nous sommes appelés à répandre l'amour tout autour de nous. Nous sommes appelés à bénir, à encourager, à soutenir les faibles, à fortifier ceux qui sont abattus, à donner de la nourriture à ceux qui en ont besoin, à soutenir la veuve, les orphelins, être les mains de Dieu sur terre ici-bas. Une chose est d'avoir foi en Dieu, mais une autre chose est de la garder vibrante. Philippiens 2, versets 12 à 13 nous dit ceci. Ainsi, bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Oui, si nous demandons à Dieu, sans se relâcher, de produire en nous le vouloir et le faire, il est bon et fidèle pour nous l'accorder et nous aider à prendre notre salut de plus en plus au sérieux, être vigilant, être sobre, à travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Il nous l'a donné gratuitement, ce salut. Mais si nous voulons le conserver jusqu'au retour de Christ, nous devons être vigilants, nous devons veiller à ne pas manquer d'huile dans notre lampe. Les vases que nous sommes doivent être continuellement remplis du Saint-Esprit. L'Église que nous sommes doit être continuellement remplie de la grâce et de l'Esprit de Dieu. Et c'est cet Esprit qui fait toute la différence. Et pour ce faire, Dieu ne nous laisse pas nous débrouiller tout seuls dans notre coin. C'est la bonne nouvelle. Dieu ne nous laisse pas nous débrouiller tout seuls dans notre coin. Il nous donne une église dans laquelle nous pouvons grandir spirituellement. Des frères et sœurs qui nous étirent dans l'amour les uns pour les autres. Une communauté à aimer et pour laquelle nous pouvons être une source de bénédiction et de grâce à tous égards. Amen. Jacques 2, verset 26 nous dit ceci. En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Notre foi doit produire des bonnes œuvres, des œuvres dignes de la repentance, des œuvres qui glorifient le nom de Christ. Briller avec une foi vibrante implique de porter du fruit. Sinon, c'est une foi morte, un phare sans lumière, une tour simplement, un poteau. Est-ce que vous voulez être des poteaux? Ce n'est pas une insulte. On veut être un phare qui brille. Vous pouvez ajouter des lumières de plein de couleurs. Plein de couleurs pour juste briller. Martin Luther, le théologien et réformateur protestant, a dit un jour, « Les lampes sans huile sont les bonnes œuvres sans la foi. » Les lampes sans huile sont les bonnes œuvres sans la foi. Alors, Église, ce matin, nous voulons porter du fruit à la gloire de Dieu. Nous voulons avoir des bonnes œuvres avec la foi que Dieu nous a donnée. Et c'est par la foi que Dieu nous a donnée que nous sommes capables de briller dans notre ville, dans notre pays, dans notre famille, sur notre lieu de travail. Nous sommes capables de briller parce que nos lampes sont remplies d'huile. Je vais inviter les musiciens à me rejoindre. J'aimerais terminer avec ce passage tiré de la lettre de Paul aux Romains, un merveilleux passage qui dit ceci. Romains 12, versets 6 à 8. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité. Celui qui préside avec zèle. Et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. L'Église est appelée à être dans la joie. La joie de servir avec les dons que Dieu a mis à notre disposition. C'est à cela que l'Église que nous formons individuellement est appelée à faire pour briller. Je veux vous rappeler ce matin que le micro qui est placé là, ce n'est pas pour intimider personne, mais c'est pour que vous puissiez exercer le don que Dieu vous a donné, pour bénir l'Église, pour que tout le monde puisse être, pour que tout le monde puisse en profiter. C'est pour ça qu'on veut amplifier ce que vous partagez comme parole de connaissance, comme parole prophétique. On veut être une Église qui bénit les autres. On veut être une Église généreuse, avec une grande libéralité, avec une grande joie. Et les dons spirituels que Dieu nous a donnés, que le Saint-Esprit nous a donnés, sont une grande bénédiction pour le corps du Christ. Et l'Église brille au travers des dons que Dieu nous a donnés. Nous pouvons donner à notre communauté parce que nous sommes remplis de l'amour de Dieu, parce que nous sommes remplis de sa paix, nous sommes remplis de générosité et nous le pratiquons sans qu'on nous l'oblige à le faire. Nous prions les uns pour les autres parce que Dieu nous a donné cet esprit d'encouragement pour exhorter, pour fortifier, pour relever ceux qui sont abattus. Peut-être que tu es là ce matin et tu te dis, il me semble que je manque d'huile dans ma lampe. Je veux juste t'encourager ce matin en te disant, c'est le temps de te réveiller et d'aller remplir cette lampe-là d'huile mise à ta disposition. Et peut-être ce matin, tu reconnais avoir reçu un don de la part de Dieu, mais aujourd'hui, pour une raison quelconque, tu ne mets plus ces dons au service de l'Église. Tu ne mets plus ce don au service de ceux qui t'entourent, de ta communauté, de ta famille, même sur ton lieu de travail. ce don est étouffé. Je veux te rappeler ce matin que ce n'est pas un esprit de timidité ni de peur que Dieu t'a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse pour que tu puisses être un phare là où il t'a placé. Que ce soit dans ta famille, que ce soit dans l'église, que ce soit dans ta ville, dans ta communauté, tu es appelé à briller, Église. Église, tu es appelé à briller. L'Église de Christ a besoin de toi. L'Église de Christ a besoin de moi. Elle a besoin de chacun de nous. Peu importe notre âge, peu importe notre histoire, peu importe notre arrière-plan, l'Église a besoin de chacun de nous. L'Église a besoin de chacun de nous pour briller avec éclat, avec puissance, avec autorité. Chaque vie et chaque témoignage compte pour briller dans ce temps dans lequel nous sommes. Et c'est ce qui fait de nous un phare avec une lumière distinctive. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Je ne connais pas le niveau d'huile que tu as encore dans ta vase, dans ta lampe ce matin. Mais une chose est certaine, tu peux demander d'être rempli encore davantage. Tu peux demander ce matin être revêtu de la plénitude du Saint-Esprit. Tu peux demander un feu nouveau. Tu peux demander à Dieu de ranimer ta flamme, la flamme du Saint-Esprit qu'il a déposée en toi. Une parole qui remontait sur mon cœur pendant que je préparais ce message. Et je sais que cette parole est pour au moins une personne dans ce lieu. Ça fait longtemps que tu es dans la foi chrétienne. Mais ta lampe, tu la sais, elle s'est éteinte. Et tu as tout simplement besoin de faire un pas de foi ce matin. De t'engager à se tourner vers Dieu. À prendre du temps seul à seul avec lui, à lui demander de te remplir à nouveau. Tu as été découragé peut-être par des hommes, par des femmes. Il y a des épreuves dans la vie qui t'ont volé ta joie, qui ont éteint ta flamme. Et tu es là ce matin comme un poteau, comme une tour. Mais ce matin, Dieu veut te redonner ton éclat. Dieu veut te permettre de briller à nouveau. Pas pour toi, mais pour sa gloire. Et ce matin, si tu es dans ce cas, je te demande tout simplement de mettre ta main sur ton cœur et laisser Dieu remplir ta vie, remplir ton cœur, amener une vie nouvelle en toi, un courage renouvelé, une passion renouvelée, une espérance nouvelle. Saint-Esprit, nous sommes là ce matin comme des vases entre tes mains et nous te demandons de nous remplir, Seigneur. Remplis chacun de nous jusqu'à déborder, Seigneur, afin que nous soyons une bénédiction pour notre Église, pour notre communauté, pour notre ville, pour notre pays, pour nos employeurs, pour nos familles. Saint-Esprit, remplis-nous ce matin. Remplis l'église ce matin. Remplis les enfants ce matin. Remplis les jeunes gens ce matin. Que personne ne ressort de ce lieu sans être rempli, sans être allumé par ton feu et par ta flamme. Merci Saint-Esprit, parce que tu fais une œuvre surnaturelle au milieu de nous ce matin. Tu résous des problèmes ce matin. Tu redonnes vie ce matin. Tu redonnes l'espérance ce matin. Tu répares des mariages ce matin. Tu réconcilies des hommes et des femmes ce matin. Tu redonnes l'amour ce matin. Tu rallumes la flamme dans des couples ce matin. Merci Saint-Esprit. Merci. Parce que tu fais de nous des phares. des phares qui brillent avec une lumière rotative. Des phares qui envoient des faisceaux lumineux plus loin. Merci Saint-Esprit. Viens toucher nos vies ce matin. Viens toucher nos vies ce matin. Merci Seigneur. Éveille en nous ta paix. Éveille en nous ta joie. Éveille en nous ta grâce ce matin. Et garde-nous vigilants, sobres. Donne-nous une foi vibrante ce matin, afin que nous puissions briller en toute saison et en toute circonstance. Que ceux qui croient que Saint-Esprit les a remplis ce matin puissent dire un grand Amen. Hallelujah.